Parlons de cette semaine en partant de sa fin. Grande émotion vendredi pour les commémorations du 70e anniversaire du débarquement allié sur les côtes françaises. En Normandie, des dizaines de chefs d'État, du gouvernement et de têtes couronnées se sont retrouvés aux côtés des vétérans. Une journée placée donc sous le signe du souvenir, de la mémoire, mais où transperçaient également les divergences présentes autour de la crise ukrainienne notamment. Ces commémorations sont-elles l'occasion pour les grands de ce monde de mettre de côté ne serait-ce que pour une journée leur désaccord? C'est du moins ce qu'espérait l'historien Jean-Noël Jeannot.
Je crois que l'histoire, telle qu'elle est pratiquée lors des commémorations, doit être bénéfique. Cela permet d'abord de resituer les émotions de l'actualité dans la longue durée, c'est-à-dire peut-être de faire émerger un certain nombre de solidarités profondes. En l'occurrence, la solidarité européenne, évidemment.
Abdication du roi Juan Carlos, le gouvernement espagnol a approuvé cette semaine la loi pour mettre en marche sa succession, assurée normalement par le prince des Asturies, le futur Felipe VI. Une succession qui n'est pas du goût de tout le monde, notamment des républicains. À l'annonce de l'abdication, un mouvement s'est même créé pour demander un référendum sur la monarchie et une nouvelle constitution. Alors, cette monarchie est-elle menacée en Espagne? Bernard Bessières, professeur à l'université d'Aix-Marseille, nous disait que non, dans l'immédiat.
Imaginez que dans les années qui viennent, il y aurait une réforme de la Constitution qui permettrait un référendum sur le système de l'État, mais qui n'est pas prévu dans la Constitution de 78. Il faudrait donc déjà que le Parlement accepte cette loi, puis qu'il y ait un référendum. Et troisièmement, et encore faudrait-il que ce référendum soit négatif à la monarchie. Mon avis, c'est que pour l'instant, la monarchie a encore quelques années devant elle.
Des élections bidons étaient organisées pour renforcer le pouvoir de Bachar al-Assad. Mais pendant ce temps, des milliers de Syriens tentaient tout simplement de survivre dans ce pays dévasté par 3 ans d'un conflit qui a déjà fait plus de 100 000 morts. À Alep, au nord du pays, la situation est catastrophique. Sur place, les frères maristes lançaient un appel à l'aide. Le frère Georges Sabé témoignait.
La situation à Alep est maintenant grave. Parce que depuis quelques semaines, la rumeur courait à Alep que les rebelles vont augmenter leurs tirs de mortier sur les quartiers résidentiels d'Alep pour faire pression sur l'État et empêcher la tenue de l'élection. Ils ont tenu parole. Presque toute la ville a reçu des mortiers de tous côtés. Je lance à travers la radio du Vatican un appel. C'est très urgent. S'il vous plaît, nous avons besoin d'une aide urgente devant cette situation catastrophique.
Et cette semaine, Paris annonçait l'arrestation de 4 personnes liées à un circuit d'acheminement de combattants volontaires vers la Syrie. Une annonce qui intervenait 3 jours après l'arrestation de Mehdi Nemmouche, l'auteur présumé de la fusillade au musée juif de Bruxelles. 2 ans après l'affaire Mohamed Merah, le profil de ce jeune homme ravive l'inquiétude de la communauté juive, mais aussi celle des musulmans de France. Mohamed Moussaoui, président de l'Union des mosquées de France et président honoraire du Conseil français du culte musulman, nous confiait son sentiment.
La similitude avec les attentats tragiques de Montauban et Toulouse vient entretenir cette souffrance morale des musulmans de France face à l'instrumentalisation insupportable de la religion musulmane par ces terroristes. D'abord, l'image de l'islam est défigurée par ce type d'actes qui se revendiquent de l'islam. Puis bien sûr, nous sentons également une grande souffrance quand on voit nos concitoyens juifs visés par ces actes haineux.
Tiananmen, c'était il y a 25 ans, à Pékin, la capitale chinoise, la répression sanglante d'un soulèvement d'étudiants qui dénonçait la corruption et réclamait des réformes démocratiques. Aujourd'hui encore, de nombreux Chinois ignorent cette période noire. Toute référence à cet événement sanglant est interdite. Alors comment le pays a-t-il pu évoluer depuis? Nous recueillons mercredi l'analyse de Jean-Luc Domenac, professeur à Sciences Po Paris et spécialiste de la Chine.
L'évolution a été terrible, terrible dans les deux sens. Dans le sens, je dirais, un petit peu niais, c'est-à-dire qu'elle a été très grande, puisque la Chine est devenue une très grande puissance économique en une vingtaine, une trentaine d'années. Mais la deuxième chose, c'est que, du coup, la hausse du niveau de vie a détruit un peu le souvenir qu'on avait de la protestation de mai-juin du printemps 1989, parce que les gens se sont dit de plus en plus, et se disent maintenant, que ça n'était pas la peine de se révolter, quand l'augmentation du niveau de vie donne à peu près ce que les gens voulaient avoir en 1989.
Autre anniversaire cette semaine, en Iran, mardi, les 25 ans de la mort de l'ayatollah Khomeini, lui qui a été à l'origine de la révolution islamique de 1979 et qui a fondé la République islamique d'Iran, qu'il a gouverné au titre de guide suprême jusqu'en juin 1989. Nous nous posions cette question. Que reste-t-il de l'Iran de Khomeini 25 ans après sa mort et l'arrivée à la présidence de Hassan Rouhani, plus modéré? Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, nous répondait.
L'Iran ne sera plus jamais comme avant, tant la révolution iranienne avait une ambition qui était de construire un modèle de société islamique. Certains diront que le projet a échoué parce que toutes sortes de politiques ont été menées n'ont absolument rien d'islamique. Et on a l'impression que le régime iranien met beaucoup plus l'accent sur le nationalisme que sur l'islamisme. Mais d'un autre côté, la République islamique est toujours là. C'est un mélange assez paradoxal d'espace démocratique et d'aspects plus dictatoriaux. Sa légitimité a été renforcée par la dernière élection présidentielle avec un taux de participation élevé. Je pense que l'acte principal, c'est que le modèle qu'il avait créé est toujours là, même si le contenu de ses politiques et ses institutions est sans doute bien différent de la vision que Khomeini en avait.